Bonsoir Pierre Veil.
Bonsoir Alain Passerelle.
C'est le téléphone sonne, le chômage en forte hausse, donc on en a parlé, mais en même temps, un paradoxe que vous abordez ce soir.
Absolument, chaque année Alain, un grand volant d'offres d'emploi reste non pourvu. Gros plan jusqu'à 20h. Merci Alain.
Le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Oui, les chiffres du chômage sont mauvais, vous venez de l'entendre dans le journal d'Alain Passerelle. 39 800 chômeurs de plus en avril. Au total, il y a en France 3 264 400 chômeurs. Et pourtant, c'est le paradoxe, de nombreux employeurs ont des difficultés à trouver du personnel. Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, parle d'une inadéquation entre les besoins des entreprises et la situation que vivent de nombreux demandeurs d'emploi. Il y a deux ans, Nicolas Sarkozy évoquait 500 000 offres d'emploi non pourvues, un chiffre impressionnant que certains économistes contestent. On manque de statistiques précises, mais le problème est là. Un rapport sera remis à l'automne prochain au gouvernement sur ces emplois vacants. Alors comment expliquer et résoudre ces difficultés de recrutement? Quels sont les secteurs qui veulent embaucher et qui n'y arrivent pas? Sur tous ces thèmes, l'émission c'est la vôtre. Nous attendons vos questions, vos témoignages. Nos invités pour vous répondre, Jean-Eudes Duménil, qui est le secrétaire général de la CGPME, la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises, Jean-Pierre Crouzet, président de l'Union Professionnelle Artisanale, et Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire Français des Conjonctures Économiques.
Pierre Veil sur France Inter.
Déjà, beaucoup d'appels, beaucoup de courriels, pas vraiment des questions, plutôt des remarques, des témoignages. Pierre, bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Vous êtes en Corrèze et vous vouliez intervenir, c'est à vous.
Oui, merci. Eh bien, écoutez, je suis un peu étonné de ce qui se passe par rapport au manque de main-d'œuvre dans certains métiers, notamment les métiers manuels. Par contre, il est arrivé une petite aventure à ma fille et à son fils, qui récemment, puisqu'il est en troisième, il doit passer, faire un choix, soit en seconde, soit chercher une autre voie. En supposant qu'il ait choisi l'apprentissage, au conseil d'orientation, on lui a répondu que l'apprentissage était réservé en principe aux élèves en difficulté, sous-entendu des cas sociaux. Alors je trouve que c'est pas très normal, dans la mesure où il y a des jeunes gens qui s'embêtent à l'école, et qui pourraient avoir des voies beaucoup plus intéressantes dans des métiers manuels ou autres métiers dont aujourd'hui on a tant besoin de main-d'œuvre. Notamment des chaudronniers, j'entendais ce matin qu'un patron ne peut pas augmenter son chiffre d'affaires faute de pouvoir recruter des chaudronniers qualifiés. C'est le cas dans les métiers de bouche. Alors c'est vrai, ce sont des métiers difficiles, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Sans ça, on va avoir des problèmes de savoir-faire et de main-d'œuvre. Voilà.
Merci Pierre d'avoir témoigné. Jean-Pierre Crouzet, président de l'UPA, l'Union Professionnelle Artisanale.
Oui, cher monsieur, je crois qu'effectivement, c'est le fond du problème et le constat que nous faisons depuis plusieurs décennies, et en particulier l'orientation de nos jeunes. En aucun cas, nos métiers sont des voies d'échec. Ce sont des voies d'avenir, ce sont des voies qui apportent beaucoup de solutions vis-à-vis de nos jeunes, mais c'est surtout pas des métiers pénibles en tant que tels. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans les métiers manuels, ce sont des métiers qui ont des contraintes, mais nous sommes assis dans un fauteuil, c'est déjà une contrainte ce soir. Donc où se situe la pénibilité, c'est une autre question. Mais je crois qu'effectivement, il nous faut résoudre aujourd'hui ce problème de l'orientation qui doit diriger vers la formation initiale, et il y a des voies d'avenir extraordinaires à développer.
Résoudre de quelle façon?
Écoutez, de telle façon qu'il faut que les jeunes connaissent le secteur du monde économique et des métiers. Et à partir de là, fassent un choix. C'est aux jeunes de faire le choix s'ils veulent se diriger sur ces secteurs ou s'ils ne le veulent pas. Mais en aucun cas, ça doit être une filière d'échec.
Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CGPME.
Oui, simplement l'auditeur disait que c'était essentiellement dans les secteurs manuels qu'on rencontrait des difficultés pour recruter des salariés. Malheureusement, je crois qu'on n'en est pas simplement là. Et on a aussi des métiers qui ne sont pas directement manuels où on rencontre des difficultés. Je pourrais vous citer par exemple le secteur sanitaire, social et médical, où on rencontre énormément de problèmes. Alors, on a parlé de l'orientation, on a raison de parler d'orientation, mais il y a aussi quand même une vraie responsabilité, notamment de la part des pouvoirs publics, sur les décisions qui sont prises sans mesure, sans en mesurer l'impact. Je vous prends un exemple concret. En ce qui concerne les ascenseurs, je vais me dire, c'est bien particulier, les ascenseurs, il y a une décision qui est votée en disant qu'il va falloir mettre aux normes les ascenseurs. Le législateur ne s'est pas interrogé savoir si oui ou non les entreprises avaient la main-d'œuvre suffisante pour le faire. Bah, résultat des courses, la loi est votée et les entreprises ne trouvent pas de salariés pour appliquer cette loi. Voilà un exemple de dysfonctionnement.
On a reçu pas mal de courriels, je les résume, mais cette question revient très souvent sur le site de l'émission. Alors, quels sont précisément les métiers où l'on trouve le plus grand nombre d'emplois non pourvus? Un auditeur écrit, c'est Jean-Christophe Appalaiseau, je pense, alors voilà, encore des a priori, je pense que ce sont des boulots pas très attractifs. Alors, quels sont ces métiers vraiment où il y a des emplois non pourvus, Mathieu Plane?
Oui, enfin, c'est vrai qu'il faut revenir sur cette idée-là d'emplois non pourvus. On voit bien que, de toute façon, ça a toujours existé. Et c'est vrai que ce phénomène d'adéquation ne peut pas être parfait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais une adéquation parfaite entre l'offre et la demande, pour des raisons effectivement déjà temporelles, hein, entre le moment où on met une offre et le moment où cette offre va être acceptée, puis aussi pour des raisons géographiques, de mobilité géographique, ouais. Et aussi la difficulté pour certains métiers qui est autour de la qualité de l'emploi, et notamment, c'est vrai qu'on ne corrige pas ces statistiques de savoir si c'est des CDD, des CDI, quel type d'emploi, parce qu'on voit bien que dans la mobilité, c'est aussi en fonction de l'emploi qu'on va proposer. Pour répondre à votre question, c'est aujourd'hui, dans les statistiques données par Pôle emploi, vraiment là où il y a un vrai problème apparemment de recrutement, c'est plutôt autour des ingénieurs, cadres, R&D, informatique. Ça, c'est vrai que c'est nécessite une plus grande formation. Et après, ça sera des emplois qui sont peut-être dits entre guillemets moins qualifiés, qui sont comme aide à domicile, aide ménagère. Mais on voit qu'il y a aussi ce problème des types d'emplois. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de temps partiel, notamment là-dedans. Et puis, il y a aussi les questions des aides-soignants, qui est aussi quelque chose d'assez récurrent. Donc, il y a vraiment, effectivement, des difficultés d'adéquation. Je pense qu'une des réponses est aussi autour de la qualité de l'emploi, ce qui ne veut pas dire que ce sont que des métiers pénibles, mais c'est aussi d'avoir des contrats, par exemple, à temps plein et à durée indéterminée.
Jean-Yves Duménil, un mot
pour
venir au
pour vous donner quelques chiffres précis, dans certains métiers, par exemple le secteur de l'hôtellerie, alors ce n'est pas nécessairement les ingénieurs, on considère qu'il y a 50 000 offres d'emploi non pourvues dans le secteur de l'hôtellerie. Vous voyez que c'est très important. Et puis, à l'autre côté du spectre, on parlait des métiers de bouche tout à l'heure, on recherche 4 000 bouchers à l'heure actuelle en France. Vous voyez que c'est des métiers qui sont très différents. Mais au-delà de ça, on considère également qu'il y a un tiers des recrutements qui se heurtent à des difficultés. Donc on n'est pas simplement sur des offres d'emploi non pourvues, mais aussi des chefs d'entreprise qui cherchent du personnel, qui finissent par en trouver, mais qui ont du mal à recruter. Je crois que ça aussi, c'est un vrai problème.
Alors voilà, sur le site du MEDEF, j'ai trouvé cette liste, les 10 métiers les plus difficiles à pourvoir, je vous les donne. Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration, vendeurs, cuisiniers, conducteurs de véhicules, cadres commerciaux et technico-commerciaux, ingénieurs et cadres techniques de l'industrie, aides à domicile et aides ménagères, agents de gardiennage et de sécurité, employés de maison et enfin ouvriers non qualifiés des industries de process. On va au standard du téléphone sonne retrouver Sophie qui est à Lille. Bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Posez votre question ou faites-nous un commentaire en direct sur l'antenne.
Oui, c'était donc une réaction. Effectivement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par rapport aux problématiques d'orientation. Je pense que les postes qui sont non pourvus aujourd'hui sont principalement des postes qui sont méconnus ou dévalorisés. Et il y a un travail à faire grand, je pense, avec le monde de l'éducation et la formation pour faire en sorte que tous ces métiers soient connus et revalorisés et aussi faire en sorte que les entreprises puissent ouvrir leurs portes et peut-être donner envie aussi aux personnes de rentrer dans ce monde et dans ces entreprises. L'industrie, par exemple, ce n'est plus Zola. Et oui. Il faut que ça se sache et il faut que les entreprises se rendent séduisantes aussi pour attirer des candidats. Donc il y a des choses à faire des deux côtés.
Qui veut réagir à cette remarque de Sophie, Jean-Pierre Crouzet pour les artisans?
Oui, je crois qu'effectivement, il faut ouvrir les portes des entreprises. Elles doivent être connues. On doit savoir ce que l'on y fait et le plaisir qu'on peut y trouver. Je crois que c'est un des grands problèmes qu'il nous faut régler aujourd'hui, la connaissance des métiers en tant que tel. C'est vrai que ce n'est pas aujourd'hui compatible de, quand on sait le nombre d'emplois qui ne sont pas pourvus et les compétences surtout, parce qu'il y a des compétences qui sont exigées sur l'aspect qualitatif que l'on se doit de rendre aux clients, aux consommateurs en tant que tels. Donc tout ça nécessite une connaissance plus accrue vis-à-vis de nos jeunes en particulier à travers des portes ouvertes.
Une intervention de Jean de Duménil et puis on va lire les courriels, il y en a beaucoup.
Oui, je crois que cet aspect orientation est effectivement fondamental. Et puis, oui, il y a aussi une réflexion sur la prospective, sur l'évolution des métiers d'une manière, enfin, en s'inscrivant dans le temps. Et il y a quelque chose qui me frappe. On parle beaucoup des investissements pour préparer l'avenir, des investissements publics qui ont été identifiés, secteur du numérique, biotechnologie, etc. On parle d'investissement financier, mais on parle très peu de la préparation des métiers de ces nouvelles filières. Donc je pense que ça aussi, il y a une responsabilité conjointe pour préparer les filières de formation en anticipant et en ne se retrouvant pas, comme trop souvent, au pied du mur. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans un monde complètement différent qui est celui des médecins. On sait pertinemment que dans les années qui viennent, on va avoir une carence de médecins anesthésistes ou accoucheurs. Qu'est-ce qu'on fait ?
Mais alors, anticiper, est-ce que vous, à la CGPME, vous le faites, vous êtes en contact avec les systèmes de formation, avec le système éducatif français ?
Bien sûr, on a des relations, on essaye de travailler. Et ce dont je vous parle, c'est un sujet qu'on va porter à la CGPME dans la prochaine conférence sociale qui a lieu le 20 et 21 juin prochain, justement pour attirer l'attention là-dessus, pour qu'on rentre dans le concret et pas simplement dans les discours.
Mathieu Plan, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques.
C'est vrai que c'est important, hein, la formation, c'est même essentiel. Hein, et cibler les bons métiers, notamment les métiers à venir. Mais on voit que d'abord, il y a une difficulté. C'est d'ailleurs, on voit dans les projections, c'est notamment, il faut anticiper correctement le marché du travail. Et on voit, vu la crise qu'il y a eu, on ne pouvait pas anticiper une telle crise. Mais en même temps, il y a quelques secteurs qui ressortent. Mais sur les choix, moi, je trouve ce qui est assez difficile, et notamment la question des jeunes, il y a la question de l'apprentissage, on l'a vu, hein, qui a été quelque chose d'important, et notamment sous le gouvernement précédent, hein, qui avait pour objectif d'amener à 1 million d'apprentis, et on a stagné à 600 000. Donc on voit que finalement, apparemment, le besoin des entreprises, et pourtant il y a une véritable aide, hein, pour les apprentis, n'est pas si évident que ça, parce qu'on voit que dans les statistiques, on est loin d'avoir une très forte augmentation. Et l'autre chose, je voudrais dire que bien sûr, il y a plein de métiers de métiers, notamment des métiers de bouche et un certain nombre de choses qui sont importants et nécessaires. Mais c'est vrai que le choix pour un jeune de s'orienter vers ce type de métier n'est pas forcément évident à 14 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même une réflexion à avoir autour de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, cette question peut se poser, sachant que malgré tout, quand on regarde les statistiques un peu à froid, hein, je dis vraiment à froid, le niveau de diplôme est quand même un rempart contre le chômage. Et quand vous allez regarder, effectivement, alors pour certaines spécialités, ce n'est pas le cas, mais en fait, plus vous êtes diplômé, plus votre probabilité de retrouver un emploi va être forte, même si, bien sûr, il reste des exceptions.
Jean-Pierre Couset, oui,
je crois que l'on
l'Union professionnelle artisanale.
Sur la formation initiale et sur l'apprentissage. Pendant des décennies, l'apprentissage a été banni. L'apprentissage était bon pour les enfants des autres, mais surtout pas pour les siens. Oui. Donc je crois que quelque part, nous récoltons ce phénomène de philosophie qui a été faite. Et il nous faut refaire découvrir aujourd'hui ce qu'est la formation initiale et laisser le temps aux jeunes d'apprendre effectivement un métier, le découvrir, l'apprendre. On apprend toute sa vie, mais je crois qu'il y a cette réflexion de formation initiale qui est aussi la découverte du monde de l'entreprise, la découverte d'un métier et le plaisir que l'on peut y trouver.
Alors ce courriel, c'est Jonas, il vient de nous écrire, hein, sur le site de l'émission, il n'est pas content. Je le cite, hein. « Je m'insurge contre cette manière de mettre en relation les chômeurs et la déficience d'adéquation entre postes non pourvus et marché du travail. Cela jette la suspicion sur les chômeurs, comme s'ils refusaient de travailler dans certains secteurs. La réalité, écrit Jonas, c'est que les entreprises exigent beaucoup de compétences sans mettre les mains dans le cambouis de la formation. » La CGPME, Jean-Eudes Duménil.
Oui, on peut toujours dire, mais enfin, malheureusement, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien et de mettre en parallèle le nombre de demandeurs d'emploi, et les chiffres qu'on a ce soir sont malheureusement dramatiques, et les offres d'emploi non pourvues. Je veux dire, le lien, il est naturel, il est évident. Alors après, qu'il y ait une responsabilité des entreprises, c'est une responsabilité partagée qui est évidente. De là à dire qu'on ne met pas le lien dans la formation professionnelle, pardon, mais je ne peux pas être d'accord avec ça. Il y a par exemple un dispositif qui a été adopté récemment qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi. C'est tout simple, ça veut dire qu'on inverse le sens des flèches. Jusqu'à présent, on formait un chômeur et ensuite on lui trouvait un job. La PEE, c'est juste l'inverse. On identifie un emploi non pourvu et ensuite on forme une compétence. On voit bien que le lien, là, il est bien évident. Simplement, on apporte une réponse.
Et comment on forme cette compétence qui paye, qui finance ?
C'est le système précisément de formation professionnelle qui existe. On passe par l'intermédiaire, pardon, c'est un peu technique, des OPCA, qui sont les organismes qui collectent les taxes auprès des entreprises. Et donc, au bout du compte, on arrive à former quelqu'un sur un job qui n'est pas pourvu. Bon.
Mathieu Plane ?
Je crois que la question est quand même assez intéressante. C'est vrai qu'il faut bien voir que les entreprises ne sont pas non plus fautives là-dedans. C'est-à-dire que vraiment la crise qu'on a vécue est assez extraordinaire du point de vue du marché du travail et que l'explosion du chômage n'est pas liée à un problème de formation. Une fois de plus, on l'a toujours eu, ce problème d'adéquation entre offre et demande. Alors le but, c'est de le réduire, mais il faut bien être clair. Aujourd'hui, le problème qu'on a et le problème du marché du travail est quand même assez marginalement lié au problème de formation. C'est quelque chose de plus structurel, de plus long terme. Je veux dire, quand on a plus d'un million de chômeurs supplémentaires, c'est pas que d'un coup la formation ne fonctionne pas. C'est vraiment qu'on est face à une crise que tous les pays européens connaissent aujourd'hui. L'Espagne, d'un coup, c'est pas un problème de formation. C'est qu'aujourd'hui, on a un choc d'activité qui est colossal. Alors, OK, il faut aller vers une meilleure formation, une meilleure adéquation. Oui. Mais attention, effectivement, c'est pas comme ça qu'on résorbera le problème du chômage, en tout cas à court terme.
Le moyen de résorber le problème du chômage, c'est la croissance et c'est l'activité. Oui. Une entreprise, elle embauche si elle a un besoin et si son carnet de commandes lui permet. Il faut revenir.
Et donc, il faut quand même remplir les carnets de commandes avant d'embaucher les gens.
Bien sûr.
Et de toute façon, aujourd'hui, le problème est beaucoup plus sur justement ce problème à avoir des gens en emploi parce qu'on voit que les entreprises ont des carnets de commandes qui sont en berne, elles sont en surcapacité de production et que donc, du coup, effectivement, dans certains secteurs, on peut avoir quelques difficultés, mais globalement, on voit qu'à Pôle emploi, les chômeurs ne manquent pas.
Des réponses pas trop longues, il y a beaucoup d'appels. Jean-Pierre Crouzet, pour les artisans, allez-y.
Oui, pour les artisans, c'est-à-dire que l'entreprise a ses exigences parce que le client a ses exigences. L'entreprise est dans la compétitivité. Donc, il n'y a aucun pardon. L'entreprise se doit de produire des produits de qualité. Alors, dans l'artisanat, tout est humanisé en tant que tel et que malheureusement, il nous faut des gens compétents.
Au Standard à Strasbourg, Paul écoute France Inter et le téléphone sonne, il veut participer à notre émission. Eh bien Paul, c'est fait, vous êtes sur l'antenne. Bonsoir Paul.
Bonjour, oui, Paul Landowski. Donc je suis fondateur et directeur de l'association qui a fait contact de l'emploi. Pourquoi j'estime que votre débat est très important et très urgent ? Car nous constatons aujourd'hui, à travers nos événements, où nous mettons en contact de véritables employeurs qui ont des vrais emplois à pourvoir avec des personnes actives en recherche d'emploi, qui recherchent du boulot, donc des gens au chômage, qui a énormément de métiers comme l'hôtellerie, le BTP, ça a été dit, qui n'attirent pas toujours certains candidats, que peut-être trop de social pourrait tuer du social, que si les charges étaient moins importantes dans notre pays, les salaires pourraient être plus séduisants et attirer ainsi les candidats pour certains métiers, et que d'autre part, il faut essayer de rendre accessibles des postes pour des métiers parfois hautement diplômés mais qui nécessitent une technicité, mais d'autant plus qu'on a encouragé beaucoup de gens à faire des études longues et qui aboutissent à l'inscription à Pôle emploi. Ouais. Or, il faudrait revaloriser, ça a été dit, les métiers manuels. Il y en a plein, des métiers dont on a besoin de compétences, où il n'y a pas toujours, effectivement, et on y arrive, l'adéquation entre l'offre et la demande. Nous avons un constat très concret sur des événements où nous avons des employeurs dans l'industrie avec des super boulots, en face des candidats super qui veulent bosser, qui ont faim, qui ont besoin de travailler. Ça ne colle pas. Pourquoi ça ne colle pas ? Non pas parce que l'un et l'autre ne s'aiment pas, parce que techniquement, ce que demande l'entrepreneur, et il a un besoin immédiat de productivité, ça ne correspond pas au candidat qui a une formation qui n'est pas en adéquation avec le besoin de l'entrepreneur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit revaloriser les métiers manuels dans un pays qui a perdu la valeur de ces métiers-là. On a parlé de la boucherie, de tous les métiers de boucher, charcutier et autres métiers de l'industrie. Revaloriser les métiers manuels, mais revenir une fois pour toutes pour l'apprentissage, un mot qui a été banni alors qu'il y a des pays voisins où le mot « apprenti » ça a une valeur énorme, significative. Oui. Donc je pense que le constat qu'on fait, c'est que dans l'industrie notamment et la chimie, il y a des emplois où il n'y a pas de candidat en face, pardon. Mais faut-il encore que ces formations soient en adéquation avec ce marché. Or, l'éducation nationale n'est pas toujours à l'aise par rapport aux problématiques de l'emploi, on va dire. Il faut faire des études longues. Mais je reviens à ce qu'a dit un intervenant chez vous, qui l'a très bien dit. On démarre du besoin et on va vers la formation pour ces métiers-là.
Très bien, Paul. On va demander à nos invités de réagir à ce que vous venez de dire. Restez en ligne avec nous. Je pense que Jean-Pierre Crouzet, président de l'UPA, vous approuvez tout ce qu'a dit.
J'approuve tout ce qui vient d'être dit. Ce sont tous les métiers de l'artisanat qui recrutent aujourd'hui, tous les métiers alimentaires. Ouais. Recherche des personnes pour travailler. Le bâtiment, malgré la crise aujourd'hui, n'a pas la réserve de compétences également. Ouais. Donc, il y a véritablement ce problème en tant que tel. Alors, je le disais tout à l'heure, ce sont des métiers mal connus. Ce sont des métiers rémunérés en tant que tels, avec des protections sociales qui sont bien supérieures quelquefois à bien d'autres métiers de l'industrie. Mais malheureusement, cette image, et puis je dirais ce qui a été banni pendant des années, parce que venir sur un métier manuel, c'était un échec quelque part. Et on a encore cette image d'Épinal qui nous colle à la peau.
Il faut
et pourtant, il y a des réussites sensationnelles et des jeunes qui s'exportent avec leur savoir-faire aujourd'hui et qui ont des réussites à l'étranger, sur tous les continents, des réussites exceptionnelles.
Jean-Yves Duménil.
Oui, simplement, la question du coût du travail, évidemment, est importante pour pouvoir revaloriser les salaires, parce que malheureusement, ça passe par là. Et puis, la deuxième chose que je voulais dire sur les apprentis, on disait tout à l'heure qu'il fallait revaloriser les métiers de l'apprentissage. Il y a quand même aussi des vraies réussites, ça a été dit, sur l'apprentissage. Est-ce que vous savez que, par exemple, 10 ans après, près d'un apprenti sur deux est à la tête d'une entreprise ? Donc voilà, donc ça veut dire qu'on peut réussir par l'apprentissage. Regardez Franck Provost, par exemple, bien connu, qui est à la tête d'un réseau de coiffeurs qui s'appelle Provalliance, qui est à la CGPME, qui pèse 1 milliard d'euros, je crois. Il a démarré dans l'apprentissage. Donc oui, il y a bien sûr énormément de choses à faire.
Paul, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, bien sûr.
Voilà, juste une question, Paul, une question que je voudrais vous poser, une réponse pas trop longue, parce qu'il y a beaucoup de monde au standard. Vous nous dites que vous dirigez une association Café Contact de l'emploi, donc vous établissez le contact entre des chômeurs et les entreprises, mais finalement, vous faites le travail de Pôle emploi.
Alors, on est complémentaires. Moi, je viens du chômage. Il y a 6 ans, j'étais en recherche d'emploi. J'ai créé mon réseau pour retrouver du boulot, qui nous a permis de créer une association avec 2 salariés, Daniel Nicoli et moi-même. Et aujourd'hui, on a un réseau de bénévoles qui utilisent notre boîte à outils. On est des véritables artisans et on construit nos rendez-vous. Ceci dit, dans l'action, on retrouve de l'emploi. Donc, on fait venir des employeurs. Alors, chacun a son métier. Simplement, nous, il y a un moment, quand on est au chômage, c'était le problème que j'avais. J'ai écrit un livre qui sortira en septembre, qui s'appelle « Mes combats pour l'emploi », qui permet, notre action permet aujourd'hui d'être dans l'authenticité. C'est ce que j'ai à des élus au niveau européen, c'est pour ça qu'on est à Strasbourg. Il y a des choses à faire. Tous les partenaires sont volontaires. Simplement, il faut aussi revenir au bon sens.
Merci, Paul, d'avoir participé à notre émission. Toujours au standard du téléphone sonne, Sabrina se trouve dans l'Allier. Bonsoir, Sabrina, bienvenue.
Bonsoir, je suis enseignante dans un collège rural et je voulais signaler que notre hiérarchie fait gentiment pression sur nous pour que nous élevions notre taux de passage en seconde générale. Un taux élevé de passage en seconde générale est considéré comme un critère, un signe de réussite d'un établissement. Alors, on peut comprendre qu'il est important de motiver les élèves et de veiller à une certaine promotion sociale, de ne pas cantonner les élèves d'un milieu humble à la voie professionnelle. Mais moi, je suis frappée par le paradoxe. On fait la publicité pour l'apprentissage et d'un autre côté, on nous dit « Comment ça, vous avez un très bon taux de réussite au brevet, mais alors vous devez avoir un très bon taux de passage en seconde générale. » Donc, c'est paradoxal.
Sur ce paradoxe, Mathieu Plane.
Oui, non, c'est vrai qu'il y a effectivement les lycées sont souvent notés par rapport à ça, et donc c'est vrai que ça peut poser un problème. Et d'ailleurs, il y a une segmentation sociale qui se crée autour de ça. Hein, donc ça, il faut l'éviter. Et bien sûr, il n'y a pas de saut métier. Hein, ça, il faut quand même aussi le répéter, mais il ne faut pas non plus penser qu'il y a des débouchés dans un certain nombre de secteurs qui sont abondants, etc. Et je pense qu'il y a aussi une histoire géographique et à mon avis qui est assez importante, qui est que notamment dans tout ce qui est métier manuel, métier de bouche, c'est extrêmement éparpillé au niveau géographique, ce qui n'est pas le cas en fait de beaucoup d'autres métiers qui vont être concentrés dans des mégalopoles ou dans des régions ou des grandes villes. Donc c'est vrai qu'il y a ce problème aussi d'adéquation géographique, de mobilité aussi, qui n'est pas évidente de vous déplacer comme ça de région en région, surtout si vous n'avez pas de certitude d'avoir un CDI qui est plutôt correctement rémunéré, parce que vous allez sinon aller plutôt sur une autre voie. Et puis, il y a l'autre question aussi, et notamment sur l'hôtellerie et l'hôtellerie-restauration et le tourisme en général, il y a les effets saisonniers. Et donc, il y a aussi cette difficulté aussi d'avoir une adéquation d'offres et demandes sur des métiers saisonniers qui sont assez récurrents, mais qui sont des postes transitoires.
Jean-Yves Duménil.
Simplement sur la dimension géographique, je pense que c'est un point qui est absolument fondamental et il faut à tout prix faire en sorte d'encourager la mobilité, même si on sait bien qu'elle n'est pas facile sur un plan familial, mais c'est vraiment une des clés aussi. Il est évident que quand vous êtes dans un bassin d'emploi dans l'est de la France, en zone frontalière par exemple, on a des zones qui rencontrent énormément de difficultés. À l'inverse, prenez dans les Pays de Loire où vous avez un taux d'emploi qui est largement supérieur, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les gens bougent. Alors on sait bien que c'est difficile, mais à nous d'inventer les mécanismes, par exemple, pour que les gens qui sont propriétaires de leur résidence principale puissent obtenir un crédit relais à taux zéro. On a des moyens de faire en sorte de favoriser la mobilité pour la rendre plus facile.
Jean-Pierre Crouzet.
Il y a un autre élément dans la mobilité qui est également la proximité et le problème du logement vis-à-vis des jeunes. Le logement vis-à-vis des jeunes par rapport à la proximité d'entreprise, par rapport à la proximité de l'école, puisque l'alternance, donc, c'est métier, c'est école. Et là, on a un véritable souci, parce que les jeunes sont quelquefois éloignés, et quels sont les moyens d'accueil dont ils peuvent bénéficier, c'est un vrai souci de fond également.
Alors, les auditeurs interviennent sur le site de l'émission. Véronique, je vous lis ce qu'elle nous a écrit. Si la plupart des offres d'emploi ne sont pas pourvues, c'est aussi parce que le public demandeur préfère rester chez soi plutôt que d'accepter un ou plusieurs contrats précaires en horaire décalé, voire de nuit. Et c'est parfaitement compréhensible, dit Véronique. Tant qu'on est jeune, on peut multiplier ses expériences jusqu'à peut-être se stabiliser, mais pour arriver dans quelles conditions physiques à la retraite? Que pensez-vous de ce que dit Véronique? Mathieu Plane de l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Non, c'est une vraie question. Alors d'abord, je pense que pour les jeunes, de toute façon, il n'y a pas tellement le choix, parce qu'on voit que pour les jeunes, il y a très peu d'aide. Pour toucher d'abord le chômage, il faut avoir travaillé. On voit que le RSA, c'est à partir de 25 ans. Donc, de toute façon, cette question d'arbitrage se pose pas trop. Et puis, on voit bien qu'aujourd'hui, une difficulté du marché du travail, hein, et ça, c'est une source de la CoS, hein, qui est la Caisse de la Sécurité sociale, sur les embauches. Aujourd'hui, le problème dans les intentions d'embauche et dans les embauches réelles, on est quand même à 85% sur des contrats courts, hein, des CDD. Et il faut savoir que c'est plus de 60% des CDD de moins d'un mois. Et donc, il y a cette difficulté toujours, hein, et une fois de plus, qui est difficile à résoudre. C'est la flexibilité dont ont besoin les entreprises, surtout dans une période de conjoncture aussi dégradée, et en même temps une certaine sécurité quand vous allez vous engager sur un métier, surtout quand vous êtes jeune et que vous devez déménager, et encore plus quand vous avez une famille, parce que vous n'allez pas prendre le premier travail qui vient, sachant que vous n'êtes pas sûr d'y rester.
Jean-Yves Duménil.
Oui, deux choses là-dessus. La première, c'est que la précarité, là où on est plus fragile, c'est quand même quand on est sans emploi plutôt que quand on a un CDD. C'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler. Même si c'est vrai que l'objectif, c'est d'obtenir un CDI pour tout le monde, ce qu'on comprend parfaitement. La deuxième chose quand même, c'est qu'on a à l'heure actuelle des entreprises qui embauchent des salariés en CDD, qui n'ont pas la visibilité suffisante pour les embaucher en CDI et qui ne sont pas en capacité de continuer ces CDD, tout simplement parce que la réglementation les en empêche. Peut-être que là, dans la période qu'on traverse à l'heure actuelle, on pourrait faire en sorte d'assouplir à minima dans le cadre de la durée légale maximale autorisée pour pouvoir renouveler les CDD, au moins, encore une fois, pendant la durée autorisée.
Les entreprises respectent pas toujours les règles du jeu sur les CDD, notamment sur le... On voit qu'il y a quand même... Effectivement, il y a une loi. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, justement, ce qui est assez intéressant dans les nouveaux accords, c'est que normalement, on va surtaxer les CDD courts. Mais en fait, effectivement, si on avait respecté les lois, il faut savoir que le CDD, normalement, c'est pour un pic d'activité. C'est pas quelque chose qui est...
Pardonnez-moi ce que vous disiez sur les CDD tout à l'heure. Vous disiez qu'un grand nombre d'embauches faisaient en CDD, ce qui est exact. Mais je vous rappelle quand même que sur le stock on a 85% des contrats actuellement qui sont en CDI. Donc, c'est 15%.
Dans la proposition d'emploi. Alors, effectivement, tout le monde cherche à justement basculer vers le CDI. On voit bien que le problème, c'est justement ça, c'est ce passage-là. On voit que le flux se fait essentiellement sur les contrats précaires, CDD intérim, et que le stock, bien sûr, est en CDI.
Mais peut-être qu'on peut s'interroger aussi pourquoi les entreprises privilégient des embauches en CDD. Peut-être que là, on peut s'interroger aussi sur les assouplissements.
Il y a besoin d'un ajustement et une flexibilité, ça c'est certain, surtout avec la crise qu'on vit. Mais après, il y a aussi le côté salarié qui est compliqué. Donc résoudre les deux, c'est quelque chose d'extrêmement complexe.
Joël en Bretagne est avec nous. Bonsoir Joël.
Bonsoir. J'entends depuis tout à l'heure la revalorisation des métiers manuels. Donc ça, effectivement, c'est un discours qu'on entend depuis des années. Mais j'entends très peu la revalorisation des salaires, en fait, tout simplement, parce que on voit bien que les coûts premiers, par exemple, on parle beaucoup de la viande, des métiers de bouche, etc. La viande a pris 150% en 10 ans. Enfin, le prix dans les étals, etc. Tout ce qui est bâtiment, le prix des logements a pris entre 100 et 150% aussi en 10 ans. Et je suis désolé de mettre le point là-dessus, mais il me semble que les salaires n'ont pas été augmentés de ces gens qui pétrissent et de ces gens qui façonnent en fait tout cela. Donc ça m'étonne un petit peu qu'on n'envisage pas à un moment donné de revaloriser d'un point de vue et de récompenser et de remettre les métiers au cœur du dispositif, quoi.
Et ça rendrait ces métiers plus attractifs, évidemment.
Bah oui, parce que ça profite bien à quelqu'un, quand même, tous ces bénéfices et toutes ces choses. Et en tous les cas, pas à l'ouvrier et pas à la personne qui transforme et qui fabrique.
Jean-Pierre Crouzet.
Deux réponses. Je ne voudrais pas laisser penser montrer que ces métiers sont sous-payés en tant que tels. Ils sont rémunérés correctement avec des conventions collectives et des avantages dont ils bénéficient.
Correctement, par exemple ?
Bah, correctement, un jeune qui sort d'apprentissage ne gagne pas le SMIC. C'est bien supérieur au SMIC. Un jeune qui sort d'apprentissage peut gagner 1 500 euros net par mois. Je parle en net, hein, comme ça c'est clair.
Oui, bien sûr.
Donc, et j'ai maintes exemples que je peux définir dans la boulangerie, par exemple. Donc c'est incontestable. Pour autant, en face de ça, il y a la gestion de l'entreprise et de la masse salariale. Et vous savez que dans nos professions, et si je prends les exemples des professions alimentaires, c'est 50% de masse salariale dans l'entreprise que représentent ces salaires. Alors, moi, je suis tout à fait favorable, bien évidemment, à mieux rémunérer encore nos salariés, mais il y a des transferts de charges qui devront se faire. Le coût du travail aujourd'hui est beaucoup trop élevé dans nos entreprises pour justement pouvoir rémunérer encore plus.
Beaucoup de témoignages sur le site de l'émission. Alexandre, voilà ce qu'il nous écrit. Il est facile de culpabiliser les demandeurs d'emploi en les rendant responsables des emplois non pourvus. Peut-être que certaines entreprises devraient se rendre compte que la formation professionnelle est aussi de leur ressort. Pour prendre un exemple, un de mes proches a postulé pour un emploi de vendeur de meubles dans une entreprise familiale. Malgré sa formation de commercial et sa motivation, on lui a rétorqué qu'il n'avait pas d'expérience dans la vente de meubles. Je me demande donc, écrit Alexandre, pourquoi une petite entreprise implantée dans une petite commune du centre Manche, dans une branche de commerce spécifique, s'obstine à attendre un vendeur de meubles avec expérience. Ce témoignage qui veut réagir.
Mathieu Plane. Une fois de plus, la crise est passée par là. On n'est pas dans la même situation qu'en 2007. Et que je crois que pour les chômeurs, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a une concurrence très forte sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'on voit notamment pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de jeunes qui ont fait pourtant des études, qui se retrouvent en situation difficile ou alors qui vont occuper des emplois qui sont sous-qualifiés par rapport à leur expérience. Et donc cette concurrence, bien sûr, va jouer. Et c'est-à-dire que, bien sûr, la formation, une fois de plus, la formation, c'est important. D'ailleurs, c'est important tout au long de la vie, ce qui est la question des seniors notamment. Mais bien sûr, aujourd'hui, il y a le problème numéro un, c'est qu'il faut, pour que tout ça marche, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'activité, il faut que les entreprises embauchent. Or, aujourd'hui, il y a quand même pléthore de chômeurs et malheureusement, il y a une concurrence qui s'instaure entre les chômeurs.
Jean-Luc Duménil.
Oui, je crois effectivement que c'est bien ça la difficulté. Oui. Alors, il y a quand même un autre point, c'est que je pense qu'il y a on a un vrai problème quand on a des gens qui sont formés avec un haut niveau de formation, qui ont fait des efforts pour arriver à obtenir des diplômes et qui ne trouvent pas d'emploi derrière. Donc c'est vrai qu'il y a une responsabilité, il y a un véritable enjeu social, mais il ne faut pas non plus qu'on fasse croire à des gens que dans certaines filières, ils trouveront un emploi qui est un emploi très bien payé, etc. Je crois que là aussi, malheureusement, il faut avoir un langage de vérité dans ce domaine-là.
Christian Marie, il est à Paris, nous a écrit « Le développement durable a besoin de spécialistes pour utiliser des technologies de pointe. A-t-on suffisamment investi pour former des jeunes dans ce secteur ?» Il cite l'isolation, le thermique, l'e-construction. Mathieu Plane,
c'est
vrai.
Non, mais c'est sûrement des secteurs d'avenir. La transition énergétique, on en parle. La crise l'a reporté, malheureusement. On voit bien qu'il y a beaucoup d'investissements autour de ça et qu'il y a un certain nombre d'emplois, alors qui peuvent être des emplois qualifiés ou un peu moins qualifiés. D'ailleurs, je crois que d'ailleurs dans les emplois d'avenir qui ont été proposés par le gouvernement, normalement, c'est dans des secteurs d'avenir et je crois que ce secteur-là en fait partie. Maintenant, c'est bien sûr essayer de cibler les bons secteurs, mais il y a une responsabilité des pouvoirs publics, bien sûr, à cibler les bons secteurs et savoir quels seront les secteurs d'avenir pour demain et la manœuvre qui va avec.
Jean-Yves Duménil ?
Oui, simplement sur la question des métiers de l'environnement et de la transition énergétique. Attention à ne pas se retrouver dans la situation que je décrivais tout à l'heure avec les ascensoristes, c'est-à-dire à prendre des textes sans avoir des gens en face capables d'assumer les responsabilités. Et puis attention aux coûts supplémentaires pour les entreprises également. C'est bien de créer des emplois, simplement si ces emplois génèrent un coût supplémentaire pour l'ensemble des entreprises, il va falloir peser le bénéfice global sur l'activité.
Déjà 19h55, le temps passe très vite. Peut-être le dernier appel ce soir, Françoise, en Corrèze. Bonsoir Françoise.
Bonsoir. Je vous remercie de votre émission. Je m'étonnais que personne de Pôle emploi ne soit présent parmi vous, car je pense que
ce sont des agents qui sont en première ligne sur les questions qui sont évoquées ce soir.
Mais enfin, on a quand même des invités qui connaissent très bien le sujet. On a déjà fait des émissions, Françoise, à propos de l'organisation, du fonctionnement de Pôle emploi. Il faut varier les invités. Allez-y, on vous écoute.
En tant qu'ancienne agent de la NPE, je voulais vous dire que dans les petits bassins d'emploi, pour avoir travaillé dans des gros bassins et dans des petits bassins, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, au-delà des problèmes de saisonnalité, oui, qui sont un problème réel, avec ce que cela implique en termes de logement. Dans un petit bassin d'emploi, tous les entrepreneurs sont connus et très connus. Les gamins, les jeunes ont fait de leur apprentissage, etc. Et il y a des employeurs qui se conduisent extrêmement mal avec leurs employés, c'est-à-dire qui manquent totalement de respect et qui ne respectent même pas les conventions collectives en termes d'horaire, de repos compensateur, etc. Bon, ça c'est un premier aspect. Donc l'agent de la NPE fait son boulot, mais l'offre d'emploi, personne ne veut aller dans l'entreprise où il va trois jours et fout le camp, quoi. Deuxième aspect, le non-respect des conventions collectives. Un agent de la NPE n'a pas à faire respecter la convention collective, ça n'est pas oui, son rôle. Ceci dit, j'ai le souvenir extrêmement clair d'une grosse discussion que j'avais eue avec un employeur qui cherchait une secrétaire de direction trilingue, avec une langue qui n'était pas très courante, il s'agissait du portugais puisqu'il exportait vers le Portugal, mmh, et il me proposait très gentiment de recruter cette secrétaire au niveau du SMIC. J'ai eu beau lui expliquer que si l'employé une femme de ménage, il la paierait au SMIC, je n'ai jamais réussi à le convaincre de me faire une autre proposition sur le salaire.
Très bien.
Donc,
Françoise,
en tant qu'agent, vous, oui, affichez une offre d'emploi sur un emploi très qualifié, avec un salaire au SMIC, soit vous allez avoir des bras cassés qui vont venir se présenter à l'entreprise et l'employeur va râler auprès de l'agent de la NPE,
oui,
soit on ne trouvera personne.
Merci Françoise de nous avoir appelé. C'est bientôt la fin de l'émission. Qui veut réagir à ce témoignage de Françoise? Jean-Pierre Crouzet.
Je ne peux pas partager. Il y a des exceptions, malheureusement, mais ce n'est pas la généralité.
Oui.
Je crois qu'il faut cesser le débat de mauvaise éducation nationale, patron-exploiteur. La vérité, elle est ni sur ce côté, ni d'un côté ni de l'autre. Je dirais qu'elle est dans la confiance aujourd'hui. On peut regretter effectivement qu'il y ait des entreprises qui se comportent mal, mais ce sont des cas exceptionnels, comme il y a malheureusement des salariés dont on pourrait attendre également beaucoup plus d'investissement. Je crois qu'aujourd'hui, le problème, il est l'orientation. Je crois que tant que nous n'aurons pas franchi cette barrière de l'orientation, de la pépinière, oui, de jeunes qui viennent dans nos secteurs d'activité, nous ne résolvons pas le problème du chômage.
Jean-Yves Duménil.
Oui, simplement, je partage ce qui vient d'être dit. Il y a effectivement des employeurs qui se comportent mal. C'est une minorité, mais ils sont perdants dans le long terme. Tout simplement parce que vous avez une relation, quand vous êtes dans une petite entreprise, directe entre le chef d'entreprise et ses salariés. Et que si la conjoncture économique fait que les gens restent dans cette entreprise, évidemment, dès qu'ils en ont l'occasion, ils s'en vont. Donc le chef d'entreprise qui se comporte mal est perdant sur le long terme.
Le mot de la fin, Mathieu Plagne.
Oui, alors, j'ai le mot de la fin. Non, juste un mot, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une crise extrêmement grave. Le chômage augmente beaucoup. Et je crois qu'effectivement, la formation est quelque chose d'important. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'avoir des politiques économiques aujourd'hui en Europe qui soient adaptées à la situation.
Ça, c'est un autre débat.
Oui, mais c'est le seul, ouais, moyen de faire aujourd'hui, de très, très clairement, de faire baisser le chômage. La formation, c'est des choses de long terme, mais à court terme, malheureusement, il faut retrouver des politiques économiques qui permettent de renouer avec la croissance.
Merci à nos invités, Jean-Hugues Duménil, Jean-Pierre Crouzet, Mathieu Plane. C'était Le Téléphone Sonne, une émission préparée par Marie-Claude Malartic, avec l'aide de Fabrice Lègle pour la réalisation.